Vous écoutez France Culture. L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrirons tout d'abord le journal avec les incendies qui frappent la Californie depuis 4 jours. Les incendies les plus destructeurs de l'histoire de cet État. Au moins 31 personnes ont trouvé la mort et plus de 200 autres sont toujours portées disparues.
Une opération des forces spéciales israéliennes à Gaza s'est conclue hier par la mort d'un officier et de 7 Palestiniens.
Oui, de quoi raviver les tensions après un récent accord qui devait pourtant contribuer à restaurer le calme dans l'enclave et empêcher une nouvelle guerre.
Des combats particulièrement meurtriers font rage depuis ce matin dans la ville portuaire de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen, Thomas.
Et au même moment, Washington, Londres, mais aussi l'ONU font toujours pression sur l'Arabie Saoudite pour que la coalition qu'elle dirige cesse enfin les hostilités.
Dans votre journal également, la première édition du Forum de Paris sur la paix qui s'est ouverte hier et qui se poursuit jusqu'à demain.
Oui, cette fois-ci sans les chefs d'État et de gouvernement, mais en présence des organisations qui travaillent sur le terrain pour éviter les conflits. En France, tous les syndicats des personnels de l'éducation appellent à la grève aujourd'hui pour dénoncer les suppressions de postes prévues par le gouvernement. Nous irons également à la cour d'assises de Bobigny, où s'ouvre la dernière semaine du procès de Georges Tron et Brigitte Gruel, accusés de viol. Enfin, invité du journal dans une vingtaine de minutes, Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et président de MCBG Conseil. Avec lui, nous reviendrons sur la fin de cette longue semaine de commémoration autour du centenaire de l'armistice. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous poursuivons notre discussion autour de l'amour malheureux, le mal d'amour sur le divan, cette fois de la psychanalyste Sarah Chiche. Elle sera avec nous à partir de 12h55, et Paco Mtielman qui reste avec nous jusqu'à 13h30.
Merci, à tout à l'heure. Au moins 31 morts, des centaines de disparus et partout les mêmes images de désolation, les décombres encore fumants, des maisons réduites en amas de cendres et de métal tordus, les carcasses de voitures abandonnées, rongées par les flammes, l'incendie qui depuis jeudi dernier ravage le nord et le sud de la Californie est le plus destructeur de l'histoire de la région, 45 000 hectares partis en fumée. Alors que les vents violents, chauds et secs se sont levés, 8000 pompiers sont actuellement mobilisés. Les autorités estiment qu'il faudra en tout 3 semaines pour maîtriser complètement les flammes. Alors près de Sacramento, là-bas, l'enfer des flammes risque notamment de faire oublier pour de nombreuses années son nom à la ville de Paradise, où plus de 7000 bâtiments ont d'ores et déjà été consumés. C'est un reportage sur place de notre envoyé spécial Grégory Phillips.
À Paradise, les maisons sont devenues des tas de cendres. Partout, il y a des carcasses de voitures calcinées. C'est une ville fantôme dans laquelle on ne croise plus que des voitures de pompiers et des corbeaux qui croassent au-dessus des ruines encore fumantes. Jessica a quitté Paradise jeudi matin en quelques minutes avec son mari et son petit garçon à bord de leur voiture.
Quand on a vu les flammes arriver et passer par-dessus la route principale, celle qui descend de la colline vers la ville de Chico, on a pris la voiture. Il y avait du feu de chaque côté de la route. Et vous imaginez, tout le monde dans la voiture avait très peur. À l'arrière, il y avait mon petit garçon et nos deux chats. Alors, j'ai chanté des chansons, comme pour dire « ce n'est pas effrayant » pour qu'il n'ait pas peur.
Ce que tous les habitants de Paradise décrivent, c'est une impression de fin du monde, quand jeudi matin, vers 9h30, des murs de flammes se sont abattus sur la ville.
Un moineau est tombé du ciel. Il s'est écrasé sur mon épaule. Il était mort, ok ? Il pleuvait du feu. Cet incendie était différent des autres et j'en ai connu pas mal dans cette région.
Roxane est née et a toujours vécu dans le nord de la Californie. Elle a vu le climat de cette région changer au fil des ans.
Vous savez, avant, on redoutait des inondations. Mais ces 3 dernières années en Californie, on affronte des tempêtes de feu. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Avant, on avait peur de la pluie. Maintenant, on a peur du feu.
Le réchauffement climatique est-il la cause des feux toujours plus violents? En un siècle, la température moyenne dans cet état de Californie a augmenté de 3 degrés. Et chaque année, la saison des incendies se rallonge d'un jour ou deux. Pourtant, Stéphanie dit ceci.
L'été est si chaud maintenant. Tout est sec, il n'y a pas assez de pluie. Mais vous savez, j'en ai rien à faire de l'origine de tout ça. Ce que je vois, c'est que tout est détruit. C'est un désastre.
Il ne reste plus rien de cette ville de Paradise qui, jeudi dernier, a connu les flammes de l'enfer.
Et s'agissant justement de l'origine de l'incendie, elle reste encore indéterminée, même si déjà des responsables du réseau électrique ont indiqué qu'une ligne à haute tension avait connu un problème juste avant l'apparition des premières flammes. Nouvelle confrontation au sommet au Sri Lanka après que le président eut dissous l'Assemblée législative vendredi et convoqué des élections anticipées pour le 5 janvier. Les principales formations politiques du pays ont déposé un recours ce matin devant la Cour suprême contre la décision du chef de l'État. De quoi accentuer un peu plus encore la crise débutée le 26 octobre dernier avec le limogeage litigieux du Premier ministre par le président. En autorisant la semaine dernière, le Qatar a acheminé une première mensualité de 15 millions de dollars pour payer les salaires des fonctionnaires dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou espérait sans doute que cette timide bouffée d'oxygène contribuerait à ramener le calme dans une enclave éprouvée par la pauvreté, les pénuries et les affrontements meurtriers. En vain, puisqu'hier, il aura suffi de quelques heures pour que la situation que l'on pensait stabilisée ne dégénère à nouveau. Des échanges de tirs ont fait 8 morts, un soldat israélien et 7 palestiniens. C'est une correspondance à Jérusalem signée Étienne Monin.
Et ce que disent les porte-paroles et les responsables de l'armée israélienne, c'est que cette opération dans la bande de Gaza était importante, que les soldats ont agi avec héroïsme, qu'il s'agissait de faire du renseignement, pas de tuer ou d'enlever un responsable du Hamas, mais on n'en sait pas plus, l'opération reste couverte par la censure. Ce que dit de son côté le Hamas, c'est qu'un commando israélien est entré profondément dans Gaza avec une voiture banalisée, qu'il y a eu des tirs sur les membres du Hamas et que l'aviation israélienne a bombardé après l'accrochage pour couvrir l'extraction. En Israël, la classe politique serre les rangs. Le Premier ministre, dans un tweet, affirme que le pays doit énormément au lieutenant-colonel tué dans cette opération qui menace, au moins provisoirement, le climat de détente créé depuis quelques semaines entre Israël et le Hamas pour tenter d'avancer sur le terrain humanitaire. Cette avancée était pourtant assumée et souhaitée par Benjamin Netanyahou. Elle avait permis d'allonger les horaires de fourniture d'électricité dans la bande de Gaza et vendredi, 3 valises de avec 15 millions de dollars à l'intérieur ont été répartis dans les banques pour payer les fonctionnaires civils du Hamas grâce à des fonds qataris autorisés par le gouvernement israélien. L'opération et l'affrontement de cette nuit prouvent qu'Israël n'est pas sincère, a dit un porte-parole du Hamas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle affaiblit les espoirs d'une avancée négociée pour réellement stabiliser la bande de Gaza.
Au Yémen, l'offensive des forces pro-gouvernementales appuyées par l'Arabie Saoudite s'intensifie contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Au moins 149 personnes, dont des civils, ont été tuées ces dernières 24 heures dans la ville portuaire de Hodeïda. Un déchaînement de violence que les pressions exercées à présent sur le royaume wahhabite montraient notamment du doigt après le meurtre du journaliste Khashoggi ne semble toujours pas en mesure d'enrayer. Alors hier, lors d'un entretien avec le prince héritier saoudien, le ministre américain de la Défense a explicitement appelé à la fin des hostilités au Yémen, un message que devrait répéter à son tour aujourd'hui le ministre britannique des Affaires étrangères lors de son passage à Riyad. Avec quelle chance de réussite, les précisions de Christian Chénaud.
Hodeïda est une ville stratégique sur la mer Rouge, un port où transitent plus des trois quarts des importations et de l'aide humanitaire pour le Yémen. Depuis des mois, la coalition dirigée par Riyad essaie de déloger les rebelles Houthis qui y sont retranchés. Mais l'offensive appuyée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis a aussi des visées politiques, explique Radia El-Moutawakel, présidente de l'ONG yéménite El-Mouatana.
En fait, ils essaient de remporter une victoire militaire avant d'aller à d'éventuelles négociations de paix. Sur le terrain, c'est de la folie. Mais il faut savoir qu'à Hodeïda, la situation a toujours été très mauvaise. Là-bas, les combats n'ont jamais cessé.
Pour elle, après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul par les services de Riyad, il est grand temps de faire pression sur l'Arabie Saoudite.
C'est la première fois que l'on voit autant d'attention autour du Yémen après l'affaire Khashoggi. Et nous pensons que c'est une opportunité importante pour essayer d'avancer vers la paix et surtout pour empêcher les parties au conflit de cibler les civils. Seule la pression peut marcher, et notamment venant des alliés de l'Arabie, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, ceux qui vendent des armes aux Saoudiens.
Reste aussi à convaincre les rebelles Houthis d'arrêter les combats et de venir à la table des négociations, ce qu'ils avaient refusé de faire en septembre dernier à Genève lors de pourparlers de paix organisés sous l'égide de l'ONU.
Alors, des affrontements dans la bande de Gaza, la guerre au Yémen, on le voit, organiser des colloques inquiets sur la paix ne saurait suffire à la faire triompher, d'autant plus lorsque la force d'une célébration qui est à minima de pouvoir réunir se trouve mise à mal par les rapports de force permanents, témoigne par exemple la politique de la chaise vide adoptée par les États-Unis, lesquels ont choisi de n'envoyer aucune délégation au forum sur la paix qui s'est ouvert hier à Paris. Alors heureusement, restent les organisations qui, elles, se battent sur le terrain et surtout les continents pour éviter les guerres. C'est à elles que la première édition de ce sommet, qui doit se tenir jusqu'à demain, est censée offrir une tribune. C'est le cas en particulier de la Fondation pour la Réconciliation, invitée à ce forum. Cette fondation, créée par un prêtre catholique, a mis en place des écoles du pardon, d'abord en Colombie. Et puis, ce modèle a ensuite été adopté dans 20 autres pays du continent américain, États-Unis compris, de sorte qu'au total, ce sont près de 2 millions de personnes qui sont passées donc dans ces écoles du pardon. C'est un reportage à Bogota, signé Marie-Ève de Teuf.
Les écoles du pardon sont nées d'un échec, celui des négociations de paix menées avec la guérilla au début du millénaire. Le père Leonel Narvaez commence alors à réfléchir aux causes de la violence.
L'arme de destruction massive, probablement la plus dangereuse, tourne autour de nos cerveaux. C'est celle qu'il faut freiner, c'est la haine.
Le père et son équipe ont mis au point une méthodologie pour désarmer la haine. Dans les écoles du pardon, en quelques sessions, les gens apprennent à réécrire leur propre histoire. Le projet va bien au-delà du conflit armé colombien.
La violence est un sujet quotidien. La violence en Colombie, et notamment les homicides, ne sont pas le fait de la guérilla, ni des ex-combattants, ni des narcotrafiquants. La violence de ces groupes n'a jamais représenté plus de 15 ou 18% du total. La grande violence en Colombie est la violence interpersonnelle.
Tout le monde a sa place dans les écoles du pardon, comme l'explique un des animateurs, David Quiroga.
Il y a des gens qui viennent à la suite d'une infidélité, d'un divorce, d'un vol, d'une agression sexuelle, d'un recrutement forcé. Il y a de tout.
La fondation est laïque et promeut une version laïque du pardon, David Quiroga.
La lecture traditionnelle du pardon, celle de la religion, voit le pardon comme extérieur au sujet, puisqu'au bout du compte, c'est Dieu qui pardonne. Nous, nous disons que le pardon est une action personnelle, individuelle, un cadeau qu'on se fait à soi-même.
Un cadeau utile dans le monde entier.
Le déchaînement des passions nationalistes à l'œuvre dans la région pro-russe de l'Ukraine a été marqué hier par deux scrutins qui visaient à élire des présidents et députés pour les deux républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lugansk qui depuis 4 ans échappent au contrôle de Kiev. Et sans surprise, les chefs séparatistes actuels ont été donnés vainqueurs selon les premiers résultats partiels. À 5 mois maintenant de l'échéance, la probabilité que le Royaume-Uni et l'Union européenne parviennent à finaliser un accord sur le Brexit semble se réduire chaque jour un peu plus à peau de chagrin. L'accord sur le Brexit n'a pas été trouvé malgré d'intenses efforts, a encore confirmé ce matin le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, de son côté. Et après s'être heurté à des résistances au sein même de son cabinet ainsi qu'à Bruxelles, la première ministre britannique Theresa May a dû, elle, abandonner l'idée de réunir son gouvernement aujourd'hui pour approuver un texte sur le Brexit. 7 ans après sa mort, le fantôme du colonel Kadhafi hante toujours la Libye, tant la chute du guide aura plongé le pays dans une errance dont il n'est toujours pas sorti. Les élections prévues le 10 décembre prochain et qui devaient couronner un processus de réconciliation devraient a priori être repoussées. D'où cette réunion organisée aujourd'hui à Palerme. L'Italie accueille une conférence pour tenter de sortir le pays de la crise. Il faut dire que la situation chaotique de la Libye alimente aujourd'hui non seulement l'insécurité chez ses voisins, mais aussi une crise migratoire qui menace désormais jusqu'à la cohésion même de l'Union européenne. Et puis s'agissant toujours de l'aide à apporter au pays du Maghreb pour lutter contre les réseaux de passeurs et l'immigration irrégulière, Christophe Castaner se rend lui aujourd'hui à Madrid pour discuter de la hausse des flux migratoires transitant par l'Espagne et du soutien à apporter donc au Maroc. À la veille de la discussion à l'Assemblée du budget 2019 de l'éducation nationale, tous les syndicats de personnel appellent à la grève aujourd'hui. Des manifestations sont prévues un peu partout en France. À Paris, un cortège s'élancera à 14h pour rallier le ministère. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors cet appel à la grève de tous les syndicats représentant l'ensemble des personnels, dans le public comme dans le privé, est une première depuis 2011 et ils réclament donc l'annulation des milliers de suppressions de postes prévues dans les collèges, les lycées, ainsi que dans l'administration.
Et oui, le mécontentement est général, d'où un appel commun de tous les syndicats, ce qui n'était plus arrivé depuis 2011, vous l'avez dit. Selon le ministère qui vient de communiquer les chiffres, il y a 8,69% de grévistes dans le primaire, 13,76% dans le secondaire. En ligne de mire, la suppression des postes, 2650 au collège et au lycée, 550 dans le privé, 400 postes administratifs. Alors qu'avec la hausse démographique, il y aura 40 000 élèves de plus par an entre 2019 et 2021 dans le secondaire. Ce qui devrait dégrader les conditions d'enseignement, estime le syndicat. De son côté, le ministère rappelle que 2335 postes seront créés l'année prochaine dans le primaire, notamment pour pérenniser le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire, en CP et en CE1. Insuffisant pour le SNIPP qui dénonce l'usage massif du redéploiement pour la mise en place de ce dispositif, ce qui se traduit par exemple par des fermetures de classes en zone rurale. Le malaise concerne aussi la réforme du lycée avec le nouveau bac auquel il faut ajouter le mouvement pas de vague avec l'agression avec une arme factice d'une enseignante à Créteil juste avant les vacances de la Toussaint. Emmanuel Macron a indiqué vouloir supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d'État d'ici 2022, soit à la fin de son quinquennat, ce qui laisse craindre de nouvelles suppressions dans l'éducation nationale, vu qu'elle représente la moitié de cette branche.
Merci Hakim Kasmi. À quelques jours de la mobilisation organisée samedi à l'appel des Gilets jaunes opposés à la hausse des prix du carburant, Édouard Philippe a tenu ce matin une réunion avec quelques piliers de son gouvernement pour régler les détails des mesures censées apaiser le mécontentement des automobilistes pour résoudre cette équation complexe qui consiste à rendre du pouvoir d'achat à certains Français sans freiner le redressement des comptes publics. L'exécutif mise notamment sur le chèque énergie et la prime à la conversion. Ce matin, s'est ouvert la dernière semaine du procès de l'actuel maire de Draveil, Georges Tron, ainsi que son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel. Tous deux sont jugés pour viol et agression sexuelle en réunion sur deux anciennes employées municipales. Et ce matin, pour la première fois, donc, était auditionné l'un des deux accusés, en l'occurrence Brigitte Gruel. Compte rendu d'audience, signé Florence Turme.
Dans ce procès, son nom est resté dans l'ombre de celui de Georges Tron, elle qui était son adjointe à la mairie de Draveil. Les accusations portées contre Brigitte Gruel n'en sont pas moins très lourdes. Viol, complicité de viol et agression sexuelle, des faits passibles de 20 ans de réclusion criminelle. Le président les énumère À la barre, cheveux châtains mi-longs, pantalon beige et pull gris, Brigitte Gruel répond de la même voix douce et traînante « Je les conteste ». Je pense qu'il y a une machination derrière tout cela, avec des femmes qui en veulent à Monsieur Tron. L'accusé poursuit « C'était mon patron à la mairie, il venait aussi dîner chez nous, mais je n'ai jamais eu de relation intime avec lui ». Elle reconnaît en revanche avoir participé à des séances de réflexologie, risque une interprétation, et il y a des femmes, parce qu'il leur a touché le pied, qui se sont imaginées des choses là où il n'y avait rien. Le président insiste, mais pourquoi vous mettre en cause, vous ? Elle répète qu'elle ne sait pas que les scènes dénoncées par les plaignantes n'ont jamais existé. Des scènes que d'autres témoins rapportent, pourtant, elles aussi, sans pour autant avoir déposé plainte. Au fur et à mesure, l'interrogatoire devient plus serré, les questions plus incisives, parfois tranchantes, sans que Brigitte Gruel ne manifeste un trouble apparent. Je préfère vous le dire très clairement, intervient alors le magistrat. La cour va s'appuyer sur une grille de lecture, un contexte général assez sexualisé qui serait de nature à rendre plausibles les dires de Madame Loubrieux et de Madame Etel. Et une chose est certaine, ajoute encore le président, dans cette affaire, vous êtes, madame, dans le même bateau que Monsieur Tron, Georges Tron, qui devrait être interrogé à son tour cet après-midi.
Hier s'est achevée l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. 7 jours qui auront conduit le chef de l'État sur les lieux les plus emblématiques de la Grande Guerre. Un périple inédit, marqué notamment par l'annonce de la panthéonisation de la France combattante de 14-18, mais aussi la polémique Pétain, sans oublier la grogne sur les carburants. Et pour dresser donc le bilan de cette semaine, invité aujourd'hui de ce journal, Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et président de MCBG Conseil. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour, bonjour. Stéphane. Une première question, monsieur Moreau-Chevrolet. Ce périple était destiné à restaurer l'image d'un président impopulaire. Or, tout au long de son chemin, Emmanuel Macron a rencontré des colères. Diriez-vous que sur cet objectif-là, Emmanuel Macron a échoué ?
Alors oui, les colères étaient forcément prévisibles, elles étaient attendues parce que à chaque fois qu'un président de la République, quel qu'il soit, c'était le cas aussi pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande, quel qu'il soit, quand il sort dans la rue aujourd'hui, il est attaqué. Il y a même un cas où Nicolas Sarkozy a été obligé de se réfugier dans un café parce que la pression était trop forte. Donc oui, de ce point de vue-là, il n'a pas réussi. Au fond, s'il venait espérait récolter de l'amour en allant voir les Français, évidemment, il n'en a pas reçu. C'était pas exactement des tomates, mais c'était un climat à chaque fois assez tendu. Il s'est retrouvé à chaque fois sur la défensive. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour un président d'aller au contact des Français. D'un certain côté, c'est tragique parce que ça montre que l'autorité de l'État est quand même assez affaiblie et que au fond, il n'y a plus de dialogue possible avec certains Français.
Une question de Stéphane Robert.
On voit bien qu'il a tenté, pour retisser le lien avec ses Français, de faire du en même temps. Des commémorations d'un côté, et puis de discuter des problématiques qui préoccupent les Français aujourd'hui. Est-ce que, déjà, est-ce que c'était une bonne idée? Et est-ce que, au vu de ce qui s'est passé, vous pensez qu'il a eu raison ou qu'il aurait mieux fait d'éviter de mêler un petit peu les choses comme ça?
Bon, on va attendre les chiffres de popularité, hein, parce que c'est aussi ce que l'exécutif regarde dans ce type de situation. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, donner un titre. Appeler ça l'itinérance mémorielle. On n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas dans de la fiction tout court, on n'est pas dans quelque chose, on est dans la réalité. Donner des titres à des séances de communication, ça va un petit peu loin. Ça veut dire qu'on dit aux gens, attention, on va communiquer, ça va s'appeler comme ça. Et donc, c'est un peu problématique. Et puis ensuite, effectivement, aller à la fois visiter le terrain, rencontrer les gens, puis en même temps expliquer que c'est pour le 11 novembre, et baptiser ça itinérance mémorielle, donc c'est incompréhensible. Il n'y a pas de solution pour les Français, ils peuvent pas comprendre la démarche. Est-ce que ça peut avoir un impact local auprès des gens qu'il est allé voir? Probablement, parce qu'il s'en est quand même plutôt bien sorti. Il s'est fait prendre à partie, mais à chaque fois, il s'en est sorti plus ou moins par le haut. Il a réussi à contenir la colère et à en faire quelque chose. Maintenant, pour les Français en général, pas franchement. Ce qu'ils peuvent retenir, c'est la conférence de dimanche avec tous les chefs d'État, parce que le dimanche, c'est devenu un grand moment politique en France. C'est un moment disponible où les gens ont du temps pour écouter la politique. Donc peut-être qu'ils vont retenir cette image du chef de l'État avec tous les autres chefs de l'État, mais c'est une image qu'ils ont déjà beaucoup vue.
On avait vu que François Hollande avait fait des commémorations quelque chose d'important hein, dans sa façon d'exercer le pouvoir. Est-ce que il s'est un peu hollandisé, Emmanuel Macron, à travers cet exercice-là?
C'est intéressant ce que vous dites. On peut dire que François Hollande a créé une tradition politique. Au fond, cette inflation commémorative sous Hollande a créé quelque chose. Et au fond, c'est vrai que Macron va utiliser le même dispositif, le même biais pour essayer de se présidentialiser, de retrouver le cœur des Français. Ça passe par la mémoire, ça passe par tout ce qu'ils pensent que les Français chérissent de l'histoire de France. Donc c'est à la fois un bon calcul pour un électorat âgé, qui est le gros de l'électorat aujourd'hui, et probablement pour beaucoup de Français, ça leur passe un peu à côté, parce que le 11 novembre, c'est important, mais on l'apprend à l'école, et puis bon, après, il y a la vie. Hein.
Est-ce que c'est pas un peu trop intellectualiser le discours du président aujourd'hui à travers ces commémorations-là?
Si, le discours est très intellectuel. Alors, c'est une copie d'élèves appliquée à chaque fois, la communication d'Emmanuel Macron. C'est un lapsus, mais de l'élève Macron. C'est quelque chose qui est très appliqué parce que il reproduit des modèles. Alors, au début, il a reproduit plutôt Obama. Là, il reproduit un peu, quand il est en conflit avec les gens, un peu de Sarkozy. Donc, il va chercher un côté un peu voyou comme ça quand il parle aux gens pour gérer le rapport de force, parce que probablement, c'est plus compliqué sur le terrain. Et effectivement, il va chercher le modèle Hollande parce que c'est la partie de Hollande qui fonctionne bien. L'international fonctionnait bien chez Hollande et la commémoration, ça a été la machine à commémoration.
Est-ce à se dire qu'il n'a pas vraiment trouvé son identité de personnage, de président en quelque sorte?
Vous pointez du doigt sa plus grande faiblesse qui est que les Français ne savent pas qui il est, ont du mal à comprendre qui est Emmanuel Macron et puis c'est vraiment un problème dans le sens où il est parfois incohérent. C'est-à-dire qu'un jour il va faire une déclaration de bon élève avec un très beau discours littéraire comme celui qu'on a eu dimanche et le lendemain il va dire il y a trop de pognon sur les aides sociales et il va renvoyer les gens dans leur carré d'une manière assez brutale. C'est Dr Macron et Mister Manu. C'est deux personnages complètement différents. Et du coup, on a des vraies interrogations sur qui il est vraiment. Et ça, c'est une vraie faiblesse pour un président. Quand on pense, par exemple, à ce qu'était la faiblesse de Hollande, qui était la même. Et c'est ça qui est perturbant, c'est qui est François Hollande. Aujourd'hui, on se demande qui est Emmanuel Macron.
On voit à travers le message qui a été délivré qu'il essayait de pointer le danger des nationalismes avec cette résurgence des années 30. Est-ce que c'est un président en campagne, en vue des européennes, qu'on a vu au cours de cette semaine?
Oui, c'est un président en campagne, littéralement. Hein. Il est entré en campagne, il va sur le terrain pour essayer de reconstruire une image, un lien avec les Français en vue des prochaines élections. Alors, semble-t-il, si on en croit l'opinion ce matin, il y a deux clivages possibles. Soit on reste sur le clivage progressiste-nationaliste, c'est-à-dire en gros, c'est moi
ou c'est l'extrême droite, c'est ce qu'il déclinait au cours des dernières semaines, ou si, comme l'annonce l'opinion, on va vers autre chose qui serait essayer de penser l'Europe comme la France en grand, c'est l'expression de l'analyste politique Stéphane Rosès, c'est-à-dire dire au fond l'Europe c'est ce qui nous protège le mieux, il y avait la France autrefois, maintenant c'est l'Europe le nouveau cadre. Dans les deux cas c'est compliqué, dans le premier cas parce qu'on fait du Front National l'adversaire numéro un dans une situation où il peut l'emporter, on a des exemples européens.
Où le Front National peut l'emporter, enfin le Rassemblement.
Pas le Front National en soi, non, vous avez raison, mais l'extrême droite, ou en tout cas une droite très musclée, peut l'emporter en France. C'est tout à fait faisable, on l'a vu à l'extérieur dans d'autres pays. On n'est pas immunisé contre ça, bien au contraire. Et aujourd'hui, il y a une droite très faible. Donc quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen, sur un malentendu, peut rafler la mise et prendre le pouvoir. Il faut se rappeler que Macron a été élu avec 24% des voix dans une logique de premier tour. Il n'a pas été élu avec un raz-de-marée. Aujourd'hui, il y a des petits commandos qui peuvent prendre le pouvoir en France. C'est faisable. Il l'a lui-même démontré. Donc c'est tout le paradoxe de la situation.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet, communicant, je le rappelle, président de MCBG. Conseil d'avoir été en direct avec
merci.
Nous. Et merci à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Ciel couvert et pluvieux au nord, du soleil dans le sud. Les températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 12 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.